franceinter.fr.
Bonjour, au sommaire d'Homo Numericus cette semaine, les machines, les ordinateurs, les smartphones, les écrans multiples qui peuplent notre vie numérique. Nous allons passer derrière ces écrans et essayer de voir comment pensent les machines. Pour cela, il faut parler leur langue, il faut savoir l'écrire, la traduire, il faut donc être capable de coder. Le code informatique est une pluralité de langues vivantes qui, une fois apprises, permettent de ne plus être passif face aux machines, mais de voir par exemple comment elles sont conçues pour nous faire passer par ici et pas par là, comment elles nous guident alors que nous pensions être souverains. Après le cerveau humain dimanche dernier, bienvenue dans le cerveau des machines.
France Inter, Homo Numericus, Nicolas Demorand.
Et je suis heureux d'accueillir Erwan Kézar. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être au micro de France Inter. Vous êtes l'un des fondateurs de simplon.co. Comment décririez-vous cette structure? Est-ce que c'est une école? Est-ce que c'est une entreprise? Qu'est-ce que c'est exactement?
Alors Simplon, avant tout, c'est une entreprise sociale et solidaire. Et qu'est-ce qu'on y fait? C'est un centre de formation d'un type un peu particulier. C'est-à-dire que chez Simplon, on enseigne les langues, comme on aime dire, alors non pas des langues vivantes qui se parlent, c'est pas du chinois, de l'allemand ou de l'anglais, mais des langues qui s'écrivent pour faire quoi? Pour donner des ordres à des ordinateurs, pour créer des sites internet, pour créer des applications mobiles. Bref, c'est un peu l'alphabet du 21e siècle, l'alphabet du numérique, qui représente aujourd'hui beaucoup d'opportunités et des milliers d'emplois.
Alors on va y venir en détail parce que parler cette langue n'est pas à la portée de tout le monde. mais ça, c'est dans un deuxième temps. Expliquez-nous la genèse de ce projet. Simplon.co est né quand et autour de quelle envie ou pour remplir quelle mission?
Alors, Simplon.co, l'idée est née en 2012 avec l'un des cofondateurs qui est André Vladescu-Holt, avec qui, en fait, on avait une petite agence web, c'est-à-dire qu'on proposait nos services à des petites entreprises, des moyennes entreprises, même des grandes entreprises, pour créer des sites internet et tout ça. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait tout appris tout seul en se documentant sur Internet, qu'on n'avait pas eu à beaucoup prospecter, qu'il y avait beaucoup de demandes, que parfois on nous proposait de nous embaucher assez fréquemment. Et au bout de 3 ans, on s'est dit, en fait, pourquoi on n'enseignerait pas ça à des gens intensivement, en 6 mois? Notamment du fait qu'il y ait des technologies aujourd'hui qui soient beaucoup plus accessibles. Il n'y a plus besoin d'être ingénieur pour apprendre tout ça. Et de fait, on s'est rendu compte qu'aux États-Unis, il y avait des gens qui se posaient la même question, qui étaient là, est-ce qu'on peut enseigner le code informatique en 4 mois? Et on se disait, bonne validation d'intuition, il y en a d'autres qui se posent la question, on les laisse faire, on verra si ça marche. Et en effet, il y avait les premiers bootcamps, des vrais camps d'entraînement au développement web qui sont développés en Californie en ce moment. Et le truc par contre, c'est que les bootcamps, il y avait 90% d'embauches à la sortie, mais c'est un autre contexte, et c'était surtout 12 000 $, et principalement pour des gens qui avaient plutôt le profil Bac plus 5, plutôt masculin, plutôt centre d'agglomération, etc. Donc voilà, on s'est dit, il y a des milliers d'emplois dans le numérique. Il n'y a plus besoin d'être ingénieur pour apprendre ça. Et il y a tout un tas de personnes qui, pour le coup, n'ont pas forcément de qualifications et qui sont très peu représentées dans le métier, qui ont certainement des leviers d'apprentissage 2 fois plus puissants parce qu'ils ont envie de se reconvertir, ils ont envie de s'en sortir, ils ont envie de reprendre des études. Donc on s'est dit, faisons une formation gratuite pour des profils qu'on ne voit jamais dans le domaine.
Alors voilà, il y a une dimension politique et sociale très très importante dans Simplon.co et dans le codage. On va y venir tout à l'heure. Dernière chose, cette école est un petit peu particulière puisqu'elle s'adresse à des écoliers de 7 à 77 ans. C'est ce que j'ai lu.
Absolument. En fait, il y a une formation longue de 6 mois. Celle-ci, c'est de 18 à 52 ans jusqu'ici. Ouais. Après, s'il y a quelqu'un qui a 70 ans et qui a les aptitudes, on l'apprendra. Et on donne aussi des cours, en effet, pour enfants, c'est le Simplon Kids. Et ça, c'est de 7 à 13 ans, et il y a des gamins, déjà, des 6-7 ans, qui montrent des aptitudes assez incroyables.
Voilà, le paysage, Erwan Kézar, est posé. On voit à peu près quel type de structure est Simplon.co. On voit à peu près quel est le type de public. Maintenant, on va rentrer dans le détail des choses. Il faut imaginer, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les ordinateurs, que le fait de coder s'est passé, en quelque sorte, dans la machine. Parce qu'un ordinateur, on peut y mettre la photo de ses enfants sur son écran, par exemple. Ça, c'est joli, c'est mignon, c'est sympa. On peut écrire ses mémoires dans un logiciel de traitement de texte. Tout ça, c'est la vitrine. Coder, c'est les entrailles.
c'est les coulisses, c'est les entrailles, c'est, comme on dit souvent, notamment pour le Simplon Kids, mais ça s'applique aussi à de jeunes adultes et à des adultes, c'est programmer pour ne pas être programmé. C'est-à-dire comprendre ce qui se passe dans la machine, en tant qu'outil de travail, en tant que porte sur toute une économie numérique, en tant que moyen de production. Quand on vous décrit une usine, par exemple, c'est assez simple. Il y a un bâtiment, il y a des machines, il y a des ouvriers. Quand on vous parle d'un instrument de production comme, je sais pas, une plateforme de réseau social, quand on vous parle de programmation, quand on vous parle de tout ça, quelle économie y a-t-il derrière? C'est aussi une porte pour aller vers ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ressortent de chez nous en étant développeurs, qui savent créer des sites, des applications, qui trouvent du boulot là-dedans ou qui montent des boîtes, souvent sociales et solidaires d'ailleurs. Et il y en a d'autres aussi qui deviennent plutôt animateurs, qui deviennent chefs de projet, qui deviennent formateurs pour des débutants. Mais en tout cas, tout le monde ressort avec une meilleure lecture, une meilleure littératie, comme on dit, une meilleure littératie numérique, une meilleure grille de lecture sur tout ce qui se passe. Parce que politiquement, économiquement, il y a d'énormes enjeux. Et voilà. Parfois, d'ailleurs, c'est aussi ce qui relève de l'éducation populaire dans notre action.
Et donc, il faut savoir ce qu'il y a derrière la vitrine d'un ordinateur. Ça, c'est essentiel pour
vous. Ça nous semble essentiel. Notamment parce que quand on commence à mettre les doigts dans le code, à se dire, bon, alors comment est fait ce site, comment il est construit, ben déjà, on se dit, qui l'a construit, combien de personnes l'ont construit, et puis comment est-ce que les gens qui ont fait ce site gagnent de l'argent. Et l'entrée technique est intéressante parce que quand on met les doigts dedans, on se rend compte qu'on peut avoir un moyen d'action sur toutes ces choses-là qui à la base peuvent paraître un peu mystiques, un peu hermétiques.
Et tout simplement très bien faites et très simple d'accès.
D'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites parce que on a de cesse de répéter que plus la technologie est complexe, plus elle est simple. Complexe n'est pas synonyme de compliqué. Plus la technologie est avancée, plus elle est complexe, plus c'est accessible. Plus on a des interfaces qui permettent même à des personnes âgées de facilement se l'approprier. Le moindre site, il y a 10 ans, c'était compliqué, il y avait la souris. Là, aujourd'hui, avec les tablettes, aujourd'hui même l'Internet des objets, voire des technologies, bio-cybernétique, je ne sais pas trop comment dire, c'est-à-dire même l'Apple Watch qui est sur votre poignet, c'est de plus en plus proche. Et ça pose aussi tout un tas de problématiques. Et si on a réfléchi un minimum au problème, tout de suite, on peut prendre des positions. Si on ne fait que subir cette technologie qui est de plus en plus simple, pour le coup, on devient programmé plutôt que de programmer.
Alors, excusez-moi, Erwan Kézard, de parler de moi. Je n'écris plus à la main, je n'écris plus avec un stylo, je passe ma vie sur des ordinateurs, des smartphones, des tablettes, et je ne sais pas coder. J'imagine que je représente là l'écrasante majorité de la population.
En termes d'usage, là pour le coup je n'ai pas vraiment de statistiques en tête. C'est intéressant parce qu'il y a 2 jours, j'intervenais au ministère du Travail. Il y avait tout un tas de représentants de missions locales, de centres sociaux et tout. Puis on discutait avec Emmaüs Connect, en fait c'est pour le lancement d'une plateforme qu'Emmaüs Connect a fait pour les demandeurs d'emploi. Il y avait toute une étude qui avait été faite autour de comment les jeunes et les jeunes en difficulté utilise le numérique. Et pour le coup, c'est les données les plus fraîches que j'ai en tête. Et il y a tout un tas de choses, tout un tas de mythes, du genre, les jeunes aujourd'hui, ils ont le réflexe d'aller sur Internet pour chercher, ils se documentent eux-mêmes, ils apprennent tout seuls, ils savent très bien servir de l'outil, ce qui est complètement faux. Il y a tout un tas de choses, par exemple, le fait que il y a beaucoup de gens, notamment de jeunes, qui partent par exemple de Facebook, qui cliquent sur un ou deux liens, qui sortent de Facebook et qui reviennent vite dans Facebook, qui est un peu le canal central de documentation. Ça pourrait tendre à briser des mythes. Aussi le fait qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas très bien taper au clavier, notamment parce qu'ils sont souvent sur leur téléphone. Il y a aussi beaucoup de gens qui ne savent pas bien chercher sur Google, qui tapent un ou deux mots et qui ont quelques résultats et qui lâchent l'affaire. Donc c'est là qu'on parle de littératie, d'usage vraiment qualifié, d'usage renseigné, d'usage aussi quelque part citoyen, parce que quand on sait se servir de cet outil-là, on sait aller chercher l'info, on sait aiguiser son esprit critique et apprendre le code au final. C'est certes apprendre une forme d'artisanat numérique, mais c'est aussi apprendre une attitude proactive, une attitude autonome et une attitude critique.
Homo numericus, Nicolas Demorand, sur France Inter.
Alors, le code, est-ce une langue unique ou est-ce qu'il y en a plusieurs ?
Il y en a une myriade.
Expliquez-nous ça.
Alors, en deux mots, pour être très pédagogue, vous savez, tout le monde a l'image des 0 et des 1, comme dans Matrix, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Tout simplement, j'espère qu'il y aura des programmeurs qui sauteront pas de leur chaise, je vais vraiment essayer d'être très, très, très simplificateur. En fait, les 0 et les 1, ça veut dire éteint, allumé, c'est de l'électricité. Ça, c'est vraiment le niveau le plus bas du code. C'est pour que les machines, tout ce qui compose nos ordinateurs, puissent comprendre. Ça, c'est leur langage. Puis, on monte en abstraction. On monte en niveau. Donc, ce sont des codes, des langages de programmation qui sont de plus en plus simples à maîtriser, jusqu'à des couches comme le web, par exemple. Le web, c'est faire de la programmation pour Internet, pour faire des applications qui seront en ligne. Donc voilà, c'est différentes couches d'abstraction. Et nous, ce qu'on fait aujourd'hui, si on peut donner accès à un public très large à ces compétences-là, c'est parce que c'est très abstrait. Il y a une couche d'abstraction qui fait que c'est beaucoup plus simple à apprendre. On est spécialisé sur le web. Et au-delà de ça, on est en train d'aller voir vers d'autres compétences au-delà de la programmation qui permettraient à un public encore plus large d'avoir ce type de compétences. Par exemple, il y a tout un tas d'applications et de services qui permettent de faire un site internet, un site e-commerce, voire des applications mobiles sans programmer. C'est-à-dire juste en déplaçant des éléments sur une page, en disant « bon, si je clique là, alors il se passe ça ». Et ça, pour le coup, c'est ça la vraie révolution numérique qui se doit d'être inclusive pour nous. C'est-à-dire que s'il y a ça, il faut donner accès à tout le monde.
Erwan Kezar, vous disiez tout à l'heure, coder, c'est apprendre une langue. Apprendre l'italien, apprendre l'allemand, apprendre l'arabe, apprendre l'anglais, ça prend du temps, c'est difficile, c'est long, il y a des subtilités, on peut progresser dans l'apprentissage de la langue ou se contenter de la baragouiner. Si on poursuit la métaphore, est-ce que le code a ce niveau de complexité? Est-ce qu'on peut se contenter de le baragouiner ou est-ce qu'il faut sans cesse travailler la matière?
Très très bonne question. Mais en fait là, tout à l'heure, vous parliez de la multiplicité des langages. Il y a des langages, en effet, qui sont plus ou moins optimaux pour faire différentes choses, qui ont des syntaxes différentes, qui ont des niveaux de complexité différents. Par exemple, Java, c'est un langage qu'on dit être verbeux. Faut beaucoup, beaucoup, beaucoup écrire. Il est très bavard. Ruby, c'est celui qu'on enseigne. C'est un bon langage pour un débutant. Il est élégant. Ben, Ruby, d'ailleurs, son nom, le Ruby.
Il est élégant, pourquoi?
Parce que quand on regarde du Ruby, même des non-programmeurs disent « ah, c'est beau ». En fait, la structuration, les paragraphes, les indentations, même le fait qu'il y ait des éditeurs de texte pour pouvoir écrire du code qui soit avec plusieurs couleurs pour que ce soit plus visible tout de suite, c'est vraiment très joli. Et c'est d'ailleurs aussi ce qui attire souvent des apprenants qui se croyaient pas faits pour ça.
Mais vous écrivez quoi? Des zéros, des uns, des chiffres kabbalistiques bizarres ou vous écrivez du français et de l'anglais?
Alors, pas du tout. Justement, les zéros et les uns, comme je disais, ça c'est le langage des machines, c'est l'électricité. C'est ce qu'on appelle proche du métal. Le métal, c'est tout ce qui constitue l'ordinateur matériellement. Nous, on écrit... En fait, il y a plusieurs langages de programmation. Il y a des langages qui peuvent s'apparenter à de l'égyptien, en effet, avec des parenthèses, des dièses, des pourcentages et qui sont assez cryptiques. Et des langages comme Ruby, justement, dans certains cas, si on lit une ligne de code à voix haute, on dirait du langage humain, par exemple. Bon, en anglais, par contre. Exit, unless, restaurant, include, A-U-R-A, entre guillemets.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire, sortir de la liste, à moins que dans le nom du restaurant, il y ait écrit A-U-R-A, en gros. Et, quand on lit ça à voix haute, souvent, on donne des formations. On commence souvent comme ça. Lisez cette phrase à voix haute. Les gens le lisent. Puis à partir de là, ils disent « Ah, mais ça veut dire quoi ?» Exactement ce que vous venez de dire. Et en fait, avec certains mots, on peut très vite en quelques mois, acquérir ce qu'on appelle le coder speak. C'est le moment où tu parles code. C'est le moment où tu ne réfléchis même plus à mettre ta virgule ou ta balise ou je sais pas quoi. C'est tu t'exprimes en code. Et c'est pour ça qu'il y a aussi une dimension très créative. On peut devenir un ouvrier spécialisé en code. Quelqu'un qui fait son boulot, qui est productif, qui fait parfois des copier-coller de texte sans forcément comprendre ce qu'il y a derrière. Ou un artisan numérique. Notre objectif, c'est de former des artisans numériques, mais il y a des gens qui trouvent du boulot en étant ouvriers spécialisés.
On l'entend dans votre voix, Erwan Kezar, on entend le sourire, et moi je vois vos yeux s'illuminer quand vous nous récitez, entre guillemets, une phrase de code. Il y a donc de la poésie là-dedans?
Ah, complètement. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans la communauté Ruby, il y a quand même tout un tas de gens un petit peu excentriques et assez marrants. Par exemple, il y a le « Why Poignant Guy ?» To Ruby, c'est difficile à prononcer, c'est le guide poignant de Ruby, qui a été fait par un monsieur qui s'appelle Y, c'est un phénomène, on n'a jamais su qui c'était, et c'est une bande dessinée assez absurde, pour le coup, où il y a des espèces de chiens qui parlent à des chats, des BD, des machins, au moins il y a même Kennedy qui prend la parole, enfin, et où il explique Ruby avec tout un tas de choses, du genre, voilà, quand il y a trois petits points, c'est-à-dire qu'il y a une liste, et si on ferme le truc, c'est comme un accordéon, ça joue des notes, et s'il n'y a pas le braquet qui ferme l'accordéon, bah, laissez le ciel manger la dernière note, et c'est très très explicatif sur ce qu'est le code.
Allez, on continue à coder et à décoder avec Erwan Kezar de Simplon.co dans quelques instants.
Homo Numericus, Nicolas Demorand sur France Inter. To my mind.
Suite de notre entretien avec Erwan Kezar, l'un des fondateurs de Simplon.co, qui est à la fois une entreprise et une école qui a pour but d'apprendre à coder à un certain nombre de publics. On va les détailler tout à l'heure. J'aimerais qu'on se mette dans la peau d'un enfant. Vous avez des ateliers d'apprentissage du code informatique pour les enfants. Vu mon niveau, repartons de là. À quoi ressemble un exercice que vous donnez à faire à un gamin ou une gamine de 7-8 ans?
Bah déjà, vous n'avez pas forcément à vous mettre dans la peau d'un enfant parce que c'est très très éducatif pour les adultes aussi. D'ailleurs, parfois, ça fait bouger des trucs dans le cerveau. Ça, c'est une façon de penser assez particulière, la programmation. Mais en gros, il y a un logiciel qui s'appelle Scratch, qui a été fait par le MIT, le grand institut de technologie américain, où en gros, on peut faire des petites animations, des petits jeux vidéo. Scratch, c'est un petit chat. Et le petit chat, en fait, on va lui donner des ordres avec des blocs. Des blocs donc qu'on voit graphiquement. Par exemple, il va y avoir step, fais un pas. Et dans step, il y a une variable, 1, 2, 3. Et en fonction, il va faire ce nombre de pas. Donc déjà, ça permet de matérialiser quelque chose qui, si c'était avec des parenthèses, des flèches et tout, serait un peu trop abstrait. Et on imbrique ces cubes, et à partir de là, on fait play, et on voit la séquence que ça donne. Et après, on peut dire, quand j'appuie sur la flèche de mon clavier, tu vas à droite, donc tu peux avoir un contrôle. Il y a même Makey Makey, qui est un truc où tu peux faire ça avec des bananes. C'est-à-dire, tu branches des bananes à ton ordinateur, et quand tu touches la banane, ça fait sauter le petit chat. Enfin, donc les enfants, c'est vraiment par cette approche assez visuelle et assez matérialisante.
Ouais. Est-ce qu'ils ont une approche naturelle de l'objet informatique et du code informatique? Moi, j'ai été sidéré de voir des enfants d'un an et demi, deux ans, sachant à peine marcher, pouvoir se débrouiller avec un smartphone, faire circuler des images, trouver les gestes très naturellement. Est-ce que vers 7, 8, 9, 10 ans, ils ont cette même naïveté par rapport au langage informatique?
C'est une question très pertinente, mais à laquelle il est très difficile de répondre. En tout cas, c'est sûr que très jeune, le tactile, enfin le haptique, le fait de pouvoir faire bouger sur un écran avec ses doigts, c'est tellement intuitif que voilà, il y a même des enfants qui essaient, par exemple, qui ouvrent un magazine et qui essaient de faire bouger des images. C'est des anecdotes qu'on entend parfois. À 9-10 ans, c'est difficile de vraiment généraliser l'usage de l'outil. En tout cas, ce qu'on peut constater, c'est qu'en effet, il y a une facilité à se situer sur l'écran, sur l'interface de l'écran, ce qui n'est pas toujours le cas. Par exemple, auprès de seniors, ils ont du mal à décrypter où se situe quoi. Les enfants ont quand même une bonne lecture des conventions. Par exemple, le logo est en haut à gauche. Quand il y a un truc souligné, c'est qu'il faut cliquer dessus, c'est un lien. Donc, globalement, il y a des enfants qui naviguent, qui manient le clavier assez bien. Mm-hmm. Donc ça, c'est quelque chose d'important parce que dans les années 80, qui savait taper au clavier? Personne. Aujourd'hui, on peut le faire très jeune. Et après, en termes d'approche intellectuelle, c'est marrant parce qu'il y a quand même une plasticité incroyable. Si vous voulez, on intervenait, on donnait des cours de code et on coachait des startups au sommet mondial sur l'éducation, le WISE. Et là, on avait le numéro d'Harvard, des instituteurs qui faisaient de l'éducation dans les campagnes pakistanaises. On avait vraiment tout type de professionnels d'éducation et qui, pour le coup, avaient beaucoup de mal à comprendre certains concepts. Là où des enfants auraient mis peut-être 10 minutes, il fallait 3 quarts d'heure d'explication. Donc il y a une plasticité pour réfléchir de cette manière-là, de cette manière procédurale, de cette manière hypothético-déductive, de cette manière aussi un peu créative. D'ailleurs, quand on montre aux enfants comment faire faire miaou au chat, alors là, c'est fini, c'est en miaou, 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 miaou partout. C'est sûr que, c'est pas tout le monde, mais il y a quand même beaucoup d'enfants qui s'adaptent plus vite à la compréhension d'un autre paradigme de pensée, de création.
Erwan Kezar, c'est pour les enfants un premier rendez-vous avec le monde informatique quand vous les formez en atelier réservé aux petits. C'est un premier rendez-vous, c'est dire il y a des machines, il faut pas s'arrêter à ce qu'il y a devant les yeux, dans les écrans, mais voir aussi comment parle la machine, comment pense la machine. C'est important que très vite se fasse cette connexion-là avec ce qui se joue derrière, en coulisses.
C'est clairement quelque chose qu'on dit en premier, c'est-à-dire qu'on dit aux parents programmer plutôt que d'être programmé, ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils comprennent cet outil-là, il faut qu'ils lisent un peu entre les lignes, il faut qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent être acteurs et créateurs, producteurs avec ça. Et au-delà de ça, C'est sûr que bah, y a le Simplon Kids, c'est de la pratique, c'est de l'amusement, surtout que ce sont souvent des anciens élèves qu'on a embauchés qui donnent ces cours-là. Mmh. Mais il y a aussi de la discussion, c'est-à-dire qu'au goûter, on parle du numérique, on parle de tout ça, on voit un peu comment ils voient les choses. Donc il y a aussi cette dimension de débat, en faire un objet de discussion. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est on frôle la question du code à l'école. Là. Parfois, j'entends des allocutions, souvent par des représentants politiques, qui tente à dire, il faut que chacun sache faire un site en sortant du CM2 ou en sortant du collège. Je pense pas que l'enjeu soit là. Si on force à avoir un résultat productif à la fin, ben on risque de trouver ça un petit peu contraignant et puis d'en être dégoûté. Mmh. Je pense que le code pour les plus jeunes, c'est d'une part qu'ils puissent voir si ça leur plaît, d'autre part qu'ils puissent voir s'ils sont bons là-dedans, d'autre part, c'est tout ce qu'on disait, c'est-à-dire que ce soit une ouverture sur la réflexion sur l'économie numérique, sur le monde numérique, c'est tellement transversal que c'est quelque chose qui s'apparente à de l'éducation civique ou de l'éducation populaire, j'ai envie de dire. D'ailleurs, l'éducation populaire, pour nous, c'est pas que pour les pauvres, hein, c'est pour les riches et pour les pauvres. Mmh. C'est apprendre à manier des concepts afin de pouvoir être un citoyen libre, entre guillemets. Et le numérique est tellement crucial là-dedans que, voilà, par exemple, là, on a la CNIL derrière moi qui est venue chez nous, et il y a l'un des...
Commission nationale informatique et liberté.
Exactement. Il y a l'un des messieurs qui nous disait, si vous voulez, je peux venir pro bono pour faire des petites interventions sur la problématique des données, de l'exploitation des données, de la sécurité des données, de quand on navigue et tout ça, de la revente des données par certaines entreprises. Et on s'est dit, mais bien sûr qu'il faut intégrer ça à nos modules de formation pour les jeunes adultes. Et ils lancent un truc en octobre qui s'appelle EducNum. C'est un concours pour que des gens fassent des BD, des vidéos assez pédagogiques pour que les enfants puissent comprendre les problématiques de données. Et c'est central, ça peut paraître être quelque chose d'expert, mais en fait c'est facilement explicable si on s'y prend bien, et c'est central dans le monde. C'est comme le centre de recherche interdisciplinaire qui fait faire de la science appliquée à des enfants de 8 ans. C'est un peu le même genre de truc, faut vraiment simplifier ça.
J'ai lu de près les documents de Simplon.co, Erwan Kézar. Ne voyez pas d'agressivité si je vous traite de salopard. À mon âge, je fais partie des seniors. Des seniors, 45 ans. Alors, je vois bien l'intérêt pour les enfants d'entrer dans le monde numérique, mais moi qui suis un jeune senior quand même encore, expliquez-moi pourquoi moi, je devrais apprendre à coder demain matin, après-demain, à la rentrée prochaine, je sais pas quand, et au lieu de lire un bon bouquin, je devrais me taper des lignes de code. Expliquez-moi pour le jeune senior... amoureux de l'informatique, en quoi c'est important?
Déjà, d'une part, on dirait pas, hein, vous êtes un jeune senior.
Sympa, merci.
Du haut de mes 29 ans, je pensais qu'on avait à peu près le même âge.
Ah bah pas du tout.
Et ben, il y a plusieurs réponses possibles, c'est-à-dire qu'il y a différents degrés. Par exemple, le degré de l'initiation, de la démystification, mettre un peu les doigts dans le code, un peu comme avec les top managers d'Orange qui étaient formés par nos élèves. C'est un peu comprendre ce qui se cache derrière, c'est comprendre les grandes tendances de la production informatique, les grandes tendances de l'innovation, innovation de rupture, innovation d'évolution, agilité, etc. Donc se sensibiliser à la culture généralement. Nous on fait des formations courtes qui peuvent être ou apprenez à coder un minimum pendant 3 jours pour vraiment acquérir des compétences techniques, ou apprenez un tout petit peu à coder avec toute une partie de culture numérique. Donc c'est pas du tout la même chose. Par contre pour des personnes... qui sont en recherche d'emploi, qui ont besoin de qualifications. On va parler après de Simplon, mais par exemple, on a monté Simplon en Ardèche avec la communauté de communes de Valérieux, donc Auchelard, c'est un village industriel. Où pour le coup, il y a eu des plans sociaux, où il y a pas mal de gens qui étaient fraiseurs, qui étaient secrétaires, qui étaient des choses comme ça, et qui là aujourd'hui, moyenne d'âge 37 ans dans la promo, ce sont des gens qui apprennent le code, qui sont là pile à l'heure le matin, parce qu'ils ont déjà tout un background professionnel, ils ont déjà des aptitudes, et ils apprennent le code pour se reconvertir, pour devenir développeur en télétravail, ou pour devenir référent numérique polyvalent pour des entreprises de tourisme du coin, par exemple, qui n'ont pas de site, ou qui ne communiquent pas, qui cherchent pas de clients en ligne. Donc, le code, ça peut être aussi une, au-delà de la dimension citoyenne, culture, se rendre compte du monde dans lequel on vit, ça peut être aussi un enjeu d'inclusion, d'insertion, de professionnalisation.
On va y venir. Une dernière question. Quand on regarde les débats sur la presse écrite, on lit très souvent que le journaliste de presse écrite aujourd'hui doit apprendre à travailler avec un programmeur, ou mieux encore, savoir coder lui-même. En quoi est-ce important? Même question. Si on prend cet exemple-là, parce que le monde du journalisme et de la presse écrite a été totalement bouleversé par la numérisation. Donc, en quoi c'est important qu'un bon reporter sache coder?
Est-ce que c'est important qu'un bon reporter sache coder? Déjà, premièrement, qu'il sache coder, au fond, il y a tout un tas de gens qui parfois viennent nous voir. Il faut que j'apprenne à coder pour comprendre le numérique. ok, on va t'y initier, mais c'est pas la fin du bousin. Si tu fais 2 semaines de HTML, tu seras pas beaucoup plus avancé. En revanche, comprendre voilà les usages, comment les gens lisent, regarder ce que des gens qui on va dire qui sont un peu avancés, un peu pointus, un peu pertinents font avec le journalisme en ligne. Là, il y a de l'intérêt. Être créatif aussi, par exemple la data visualisation, la visualisation de données, ça c'est intéressant. Et typiquement, on a une formation course qui s'appelle Hacker Journalism où c'est spécialisé pour les journalistes et on fait un petit peu de code, on montre les possibilités qu'ouvre le code. Par exemple, on a un élève qui est en train de travailler sur la visualisation de certains pans du budget du gouvernement en 3D avec des lunettes de réalité augmentée pour pouvoir naviguer dans les dépenses autour de la santé, autour de la défense et tout ça. Donc comme dans un jeu vidéo.
Donc voilà. C'est une corde supplémentaire à l'arc.
Exactement. Une corde qui peut être fondamentale.
Le dialogue entre le senior et le junior Erwan Kezar se poursuit dans quelques instants sur France Inter. So much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Poursuit ce dialogue numérique autour d'un verbe du premier groupe, coder, en compagnie d'Erwan Kezar, qui est l'un des fondateurs de Simplon.co, entreprise sociale et solidaire, disiez-vous tout à l'heure, école, pour le dire aussi très simplement. Comment formulez-vous la problématique politique et sociale de Simplon?
C'est un large panorama parce qu'on se rend compte qu'on est quelque part plus en train de lancer un mouvement qu'une simple entreprise d'inclusion. Ça va, comme je disais, du fait que des personnes originaires de quartiers prioritaires et n'ayant pas le bac ni le brevet parfois forment des étudiants d'HEC ou des grands dirigeants. Au fait que on lance en ce moment l'Africa Code Week, la semaine africaine du code, pour que tout un tas d'enfants soient initiés là-dessus. Notamment avec des petits ordinateurs à $30, les Raspberry Pi, c'est assez incroyable cette machine. Au fait que mon associé Frédéric Bardot ait publié un livre qui s'appelle « Lire, écrire, compter, coder », Donc voilà, des verbes du premier groupe. Ou encore sur le fait qu'actuellement, on est en train de vraiment verrouiller des mécanismes de pédagogie solidaire, parce qu'un développeur qui développe tout seul, il n'y arrivera pas. Faut qu'il se documente, faut qu'il code à plusieurs. Et là, on fait afin que nos élèves constituent une espèce de micro-société, ça va de Bac-8 à Bac+8 chez nous. Comment faire afin qu'ils s'entraident autour du code, qui est les meilleurs, enfin les plus avancés, qui aident les moins avancés, et qui s'auto-organisent.
Il y a un point commun, c'est le grand échec scolaire pour les plus jeunes.
Pas toujours, parce que comme je le disais, Simplon, c'est une formation intensive, 6 mois, par la pratique et professionnalisante, et gratuite, pour des profils, prioritairement pour des profils peu représentés. Donc ce sont des non-diplômés, des personnes originaires de quartiers prioritaires, de zones rurales, objectif de parité homme-femme aussi. Mesdames, vous pouvez devenir codeuses, c'est pas un métier de
bon
mec.
Bon courage, parce que c'est quand même encore un métier de mec, pour reprendre votre expression.
Il y a beaucoup d'autocensure, il y a parfois des manques de confiance, mais globalement quand même, les femmes sont parmi les plus performantes dans nos formations.
Mais il y a aussi en direction des formations en direction des personnes handicapées, des formations de cette nature-là. Donc on voit bien que vous pensez votre action sous l'angle de l'utilité sociale.
Absolument. En fait, voilà les critères d'entrée dans Simplon. C'est bon, déjà les critères sociaux, ne pas avoir de diplôme, venir d'un quartier prioritaire, être au RSA, etc. Les critères d'aptitude, et ça le processus de sélection se fait en jaugeant la motivation et la capacité à auto-apprendre en ligne tout seul. On demande de passer 15 étapes sur une plateforme d'auto-apprentissage accessible aux débutants. Il y en a qui en passent 20, 30, 40, 50 jusqu'à 84 cette année. C'est 15 jours de boulot intensif en autonomie. Donc des gens qui veulent vraiment faire ça et qui sauront de quoi il s'agit du coup. Et troisième critère, c'est aussi le fait d'avoir envie d'apporter sa brique au monde. Parce qu'on se dit que des personnes originaires de communautés ou de territoires mal desservies par des services numériques qui n'ont pas des applis par exemple qui résolvent des problèmes pour le quartier HLM, comme l'a fait l'un de nos élèves pour le quartier des Beaudottes à Sevran, ou autre. Ben voilà, des gens qui se disent, le numérique, j'ai envie de le mettre au service de l'intérêt général, avec rentabilité ou pas, on n'est pas en train de dire, oui, il faut faire que du bénévolat. Mais quand même, aujourd'hui, quand on voit des entreprises qui font des marges incroyables, bon, par exemple, quelle est la vision d'Amazon de devenir le distributeur mondial? Mais avec toutes ces marges, il n'y a pas moyen de construire une société plus juste, sérieusement, avec le numérique, alors qu'il y a des Sud-Africains comme Marlon Parker qui ont changé la vie de dizaines de milliers de personnes en faisant une espèce de hotline qui s'apparente au service public qui là-bas est très difficile en Afrique du Sud, avec des gens qui traînaient dans la rue à la base et qui là sont payés pour répondre à des gens qui sont enceintes, qui sont malades, qui sont toxicomanes, en regardant sur Google pour leur donner des solutions. C'est ça pour nous le numérique, c'est donner du boulot à des gens qui sont peut-être les plus à même de résoudre des problèmes de société, d'avoir une utilité sociale, lucrative ou non lucrative, mais en tout cas le numérique doit être mis à disposition non pas seulement d'une élite. On a souvent l'image de l'entrepreneur roi de la Silicon Valley, The Social Network, Mark Zuckerberg, ça a fait des dégâts, ça, c'est mythologie. Il faut être beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus réaliste et donner des outils qui permettent à des gens de dire « Ah, ben peut-être que dans 2 ans, je serai salarié et pas entrepreneur. » Faut arrêter de dire « Deviens ton propre boss, le salariat, c'est pourri. » Non, je pourrais m'émanciper, avoir mon boulot, voire créer mon métier, il y a tout un tas de métiers qui n'existent pas encore, qui sont en train de se créer, d'apparaître sous nos yeux. Et ce, avec du code ou autres outils numériques qui sont aujourd'hui plus accessibles que jamais.
Erwan Kezar, est-ce que vous êtes minoritaire à porter ce type de discours? Parce que vous l'avez dit, le discours de la Silicon Valley, entre guillemets, c'est le discours de la réussite individuelle, de l'enrichissement infini, de l'entrée en bourse, des pactoles à 18 ans, et absolument pas d'un internet proche et modeste, pour le dire comme ça.
Est-ce qu'on est minoritaire? Eh ben, vous savez quoi? J'ai l'impression que oui, dans le sens où, vous savez, simplement, on dit parfois qu'on est une start-up. C'est-à-dire qu'une start-up, on a fait la guerre, on a vraiment beaucoup galéré pour monter notre truc, parce qu'on était une entreprise sociale et suicidaire, on a fait les choses à l'envers, on a pris beaucoup de risques, on s'est dit non, mais il y a tellement de valeur dans ce truc, on s'endette, on lance le truc. Le modèle économique, on réfléchira après, sachant qu'on a en énorme partie autofinancé aujourd'hui. Et en fait, ça nous a permis d'explorer tout un tas de choses. Et aujourd'hui, on a un point de vue où on se dit, waouh, tous les retours d'expérience qu'on a, ça fait qu'on a un point de vue assez tranché là-dessus. Et j'ai envie de dire que non, on n'est pas minoritaire parce que chez nous, il y a tout qui passe. Il y a du cadre dirigeant, il y a du travailleur social, il y a de l'étudiant de grande école, il y a des gens qui sont cassés par la vie, de droite, de gauche. Et en fait, quand on explique un petit peu notre vision des choses, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui font, Ah oui, parce que par défaut, quand on entend parler d'innovation, j'ai envie de dire d'innovisme, tout ce qui est nouveau, c'est bien. Tout ce qui est agilité, c'est bien. Quand le brutalisme aussi, le fait de devenir le meilleur, de marcher sur les autres, ou encore l'élitisme. Oui, c'est le fait d'une élite, le numérique. De toute façon, contre des grandes entreprises qui sont en train de nous manipuler, entre guillemets, on peut rien faire. Si, on peut se mobiliser, on peut apprendre, on peut avoir un poids citoyen.
Mais vous l'avez retourné, ça, en disant « nous sommes des bisounours ». Expliquez-nous cette approche bisounours du numérique, qui est une approche ironique évidemment et beaucoup plus offensive que le mot ne permet de l'imaginer.
Absolument, en fait, ça c'est quelque chose qu'on a lancé dernièrement qui n'est pas du tout un clash hostile comme on a pu l'entendre sur Twitter, mais plus une occasion de lancer le débat. Notamment, pas dirigé explicitement contre une structure ni contre des personnes qui portent ce type de discours, mais quand même qui incarne un peu ça, cette réussite individuelle de la Silicon Valley, sachant que la Silicon Valley, il y a énormément de méthodologies sur base scientifique dont on s'inspire et de traits culturels qu'on adore aussi.
Bien entendu.
Et l'idée, c'est pas de dire « Ah, c'est mal de faire ci, de faire ça », c'est plutôt de déclencher le débat. Et il y a typiquement des personnes qui, à mon avis, ont dû se reconnaître en tant que destinataires dans ce mouvement, avec qui on aimerait plus parler qu'autre chose. Notamment du fait qu'aujourd'hui, en 2015, les fractures sont multiples. On va vers un monde qui peut devenir dystopique. On peut aller vers un monde un peu plus juste. On a l'impression que voilà, le progrès avance. Non, c'est une progression, on va vers l'avant. Est-ce qu'on va vers le mieux? Je sais pas. Il faut en parler. C'est politiquement et économiquement aussi ultra fondamental.
Merci Erwan Kezar. Ce qui est fascinant, c'est qu'on est parti des entrailles cachées d'un ordinateur et qu'on est arrivé dans la possibilité de réformer le monde réel, de reconstruire des parcours individuels et d'essayer tout bêtement d'améliorer le monde. C'est ça votre boulot?
Exactement, et aussi quelque part d'être moteur de cohésion sociale. Plutôt que de monter les gens les uns contre les autres, on préfère les faire bosser sur des projets, partager en intelligence collective avec toutes les intelligences qu'il peut y avoir. Et d'ailleurs, le mouvement Bisounours, ça s'adresse à des gens très intelligents, experts de tout un tas de domaines, qui, à mon avis, pourraient créer une valeur sociale et citoyenne, si on en parlait, bien supérieure à ce qu'on est capable de faire aujourd'hui dans le monde.
Bon, en tout cas, merci une nouvelle fois. Vous m'avez donné envie d'apprendre à coder. Et longue vie à Simplon.
Merci.
Homo Numericus, une équipe 2.0 composée de Nathalie Poitevin et d'Éric Lenné. Rendez-vous dimanche prochain. Notre invité sera Geoffroy de Laguenerie. Nous parlerons de son livre « L'art de la révolte » chez Fayard, autour d'un thème donc « S'engager ». Bon dimanche.